Vous êtes sur RTL.
13h, 14h,
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Bienvenue à toutes et à tous dans Focus Dimanche, l'émission avec ceux qui font l'actualité de la semaine. Chaque jour sur l'application RTL, vous avez rendez-vous avec Focus, le podcast quotidien de la rédaction où Marion Calais développe un titre de l'actualité. Chaque dimanche, on se retrouve avec les personnalités qui font l'actu de la semaine.
Focus Dimanche,
Mohamed Bouafsi.
Vous allez découvrir le témoignage d'un prisonnier qui témoigne de son quotidien en prison. Comment ne pas récidiver? Comment se réinsérer dans la société? On vous emmène découvrir l'univers carcéral. C'est un témoignage rare qu'on vous propose dans quelques instants sur RTL. Un homme sur 10 considère qu'une gifle sur sa compagne n'est pas une violence. 40% des hommes considèrent que les femmes doivent arrêter leur travail pour s'occuper des enfants. Gabriella et Elisabeth ont été victimes de sexisme dans leur entreprise. Elles prennent la parole. C'est la star du patinage français, victime d'un choc anodin. Elle s'est brisée les cervicales. Les chirurgiens lui expliquaient qu'elle ne remarcherait jamais. Tiffany Huot-Marchand a repris la course. Elle nous raconte les secrets de ce miracle. Partout en France, des profs manquent dans les classes. Depuis plus de 2 mois, la fille de Marie-Lou Peyral, en 6e, n'a plus de professeur de français. Cette maman désemparée est avec moi en studio, en compagnie de l'avocate du collectif « On veut des profs ». C'est un film qui va vous donner la pêche, qui est sorti en salle mercredi. Divertimento, l'histoire de 2 sœurs jumelles de Seine-Saint-Denis qui vont dépasser tous les obstacles pour devenir chef d'orchestre et violoncelliste. Zaya et Fethou Maziwani nous livrent les secrets de ce triomphe international.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus. Dimanche.
Des profs aux abonnés absents et des parents d'élèves qui n'en peuvent plus, qui s'inquiètent pour la scolarité de leurs enfants. Mais pour le collectif, on veut des profs, c'est trop. L'association demande une indemnisation versée par l'État aux parents d'élèves pour le non-remplacement de ses professeurs. Elles sont mes invitées dans Focus Dimanche. Joyce Pitcher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate au barreau de Paris et vous représentez en justice l'association On veut des profs. En studio aussi avec nous, Marie-Lou Peyral, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une maman désespérée de voir votre fille de 6e sans professeur de français depuis des semaines. Depuis combien de temps, Marie-Lou, votre fille n'a plus de professeur de français?
Là, ça va faire quelques semaines qu'elle n'a pas été remplacée malgré nos multiples appels au rectorat. Aujourd'hui, on en est à 40 heures sans remplaçant. Ce qui nous inquiète, c'est que quand on voit nos enfants qui, effectivement, perdent un petit peu des notions de vocabulaire, quand moi-même, j'essaye de faire des dictées à ma fille, mais que je me rends bien compte que c'est un métier et que je ne sais pas le faire.
Ça veut dire que vous jouez à la prof de français depuis 8 semaines?
Pas depuis 8 semaines, parce que j'ai quand même un travail. Mais effectivement, ça fait... si vous voulez, c'est pendant les vacances de Noël où on est quand même quelques-uns à s'être un petit peu affolés, avoir tenté des choses. Et effectivement, cette espèce de sensation de faire l'école à la maison, rappeler des souvenirs
pas forcément... L'époque du Covid, ouais.
Voilà. Et voilà, et là, en fait, c'est un ras-le-bol, en fait. C'est un ras-le-bol parce que nous avons... vraiment respecter le protocole qui est on demande au rectorat, on a fait des lettres et en fait on nous répond qu'ils sont en cours de recrutement.
Ouais.
On a bien conscience, là on fait un référé pour demander des remplaçants, on sait bien qu'il n'y en a pas, mais ouais. À un moment donné c'est aussi révéler le manquement de l'État dans sa mission de service public.
Maître Pitcher, qu'est-ce que représente l'absentéisme des professeurs en France aujourd'hui? Ces situations, la situation de Marie-Lou Peyral et de sa fille, elle est vécue par des centaines, voire même des milliers de parents en France.
Oui, c'est exactement ce qu'on nous reporte en fait. Moi, j'ai lancé cette action en mai dernier, puisque plusieurs parents d'élèves sont venus me voir en me disant on a besoin d'agir de manière collective. Et donc, ce qui est nouveau avec cette nouvelle action que nous lançons, c'est que nous demandons vraiment une condamnation de l'État à prendre une mesure concrète, c'est-à-dire dans tous les établissements dans lesquels des élèves n'auraient pas d'enseignement depuis plus de 15 jours, nous demandons que l'État soit condamné à trouver un remplaçant et nous demandons également qu'il soit condamné à rattraper toutes les heures de cours perdues. De toute façon, il y a quand même quelque chose qui est important à rappeler. Le droit à l'éducation est inscrit dans la Constitution. Donc l'État doit mettre en face les moyens pour faire de cette éducation une priorité nationale.
Marie-Lou, maître, la situation ne risque pas de s'arranger. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, annonce dès maintenant le manque de professeurs à la rentrée scolaire. En septembre. Écoutez, c'était le 4 janvier chez nos confrères de BFM TV.
Nous savons que nous allons ouvrir des postes et que tous les postes ne seront pas pourvus. Et donc, nous ferons appel, comme l'année dernière, à des enseignants contractuels.
Marilou, le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, qui annonce d'ores et déjà ce manque de professeurs. On est en France, Maître Pitcher le disait tout à l'heure, c'est un droit, le droit à l'éducation, le droit à l'instruction. J'imagine que ça vous désole, ça vous met même peut-être en colère.
Est-ce que je suis en colère ? Oui. Est-ce que je trouve que cette annonce est satisfaisante ? Absolument pas, puisque si c'est pour repartir sur des speed dating, comme on a vu en juin dernier, avec des rencontres entre jeunes postulants, un quart d'heure d'entretien, une formation de 10 jours, non. Enfin, moi, je veux des profs formés. En fait, c'est un vrai métier. Moi, j'ai une vraie question, c'est-à-dire, est-ce que l'éducation nationale est malade, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à recruter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remplaçant, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe en fait, vraiment.
J'ai envie de poser cette question à Maître Joyce Pitcher. Comment on en est arrivé là, Maître, selon vous?
Alors après, ça, ce sont plutôt des sujets un peu politiques. L'annonce qui est faite par Pap Ndiaye, elle est un petit peu décevante, parce qu'en fait, ils sont en train presque de préparer leur défense à une attaque qui va être la nôtre, en tout cas. Donc là, je vois déjà une plaidoirie en face. On me dit, on a essayé en fait de recruter, c'est simplement qu'il n'y a pas de prof, c'est pas de notre faute. Le fond du problème, je pense qu'il est bien plus profond que ça. S'il n'y a pas de prof, c'est parce qu'il faut être plus attractif que ça, probablement. C'est pas une réponse de l'État de dire, il n'y a pas de prof et donc nous ne pouvons pas pourvoir ce service.
Vous défendez combien de dossiers, Maître ?
Alors là, aujourd'hui, nous avons 150 familles, mais voilà, c'est un mouvement qui vient juste d'être lancé.
Et vous dites vouloir attaquer l'État au portefeuille. Ça signifie quoi concrètement pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent ce combat que vous menez aujourd'hui sur RTL ?
Très concrètement, nous avons deux actions. Nous avons une action au fond qui est une demande d'indemnisation qui est faite contre l'État pour demander donc de l'argent pour toutes les heures qui ont été perdues.
Oui.
Il y a une deuxième action qui est une action en référé où on demande pour tous les élèves qui n'ont pas de prof depuis plus de 15 jours une action concrète de l'État de trouver un remplaçant et de pourvoir un rattrapage de ces heures perdues.
Marilou Peyral, tous les enfants ne sont pas égaux face à l'instruction aujourd'hui en France.
C'est-à-dire qu'effectivement on est en train de creuser des inégalités scolaires. Et c'est là où je pense que pour les parents, il y a quelque chose qui est un peu franchi. Si vous voulez, on a l'impression que c'est une génération qui s'est quand même pris du Covid, des confinements. C'est quand même un climat pour la jeunesse qui est quand même assez difficile. Et je me demande quel message on envoie en disant, écoutez, les profs, on ne peut pas les remplacer et on verra bien à la rentrée. De toute façon, il en manquera.
Vous avez dit quelque chose de très intéressant, Maître Joyce Pitcher. Il faut retrouver de l'attractivité aussi dans l'éducation nationale pour donner envie à des jeunes d'être professeurs, pour donner envie de remplacer cette professeure de français qui est absente pour votre fille Marilou Peyral. Merci à vous deux. Bon dimanche à vous deux.
Merci.
Quelles sont les conditions de vie à l'intérieur de nos prisons ? Comment faire pour ne pas récidiver ? Sofiane est un ancien délinquant. Il a été condamné. Aujourd'hui, il se réinsère dans la société. Il nous raconte son combat aux côtés d'une journaliste qui publie un livre sur l'une des plus grandes figures du banditisme français, Redouane Faïd. C'est dans quelques secondes sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
13h, 14h.
Focus dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
La vie après la prison passe par la réinsertion professionnelle pour ne pas retomber dans la violence. Il en est l'exemple parfait à 26 ans, celui que nous appellerons Sofiane et mon invité dans Focus Dimanche. Bonjour Sofiane.
Bonjour.
Vous avez été condamné à 4 ans de prison pour délit de droit commun. Aujourd'hui, vous bénéficiez d'un aménagement de peine. Vous avez été condamné pour quoi ? C'est quoi votre parcours, Sofiane ?
J'ai été condamné pour un trafic de stupéfiants, 3 ans de prison. J'ai procédé à un aménagement de peine au bout d'un an. Là, je suis toujours en conditionnel. Jusqu'au 14 février, c'est bientôt fini là.
Comment on arrive du jour au lendemain à tomber dans le trafic et surtout à arriver en prison ?
C'est le décor dans lequel on vit en fait. C'est ce qui nous entoure à Saint-Denis. Ça fait partie de quand on est petit, une solution, un choix pour nos problèmes. Aussi une facilité. Enfin, c'est ce qu'on pense.
Ouais.
Et puis voilà, on tombe rapidement dedans.
Vous commencez par quel rôle dans le trafic de stupéfiants, Sofiane ?
Guetteur.
Le guetteur, c'est celui qui prévient le vendeur s'il y a une voiture de police pas très loin, etc. C'est ça ?
Voilà, exactement.
Vous avez fait ça combien de temps, Sofiane ?
Je crois que j'avais entre 13 et 14 ans. Et
juste pour être très clair, comment vous tombez dedans, Sofiane ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment à 13 ans, un gamin qui doit être un adolescent ?
Ça dépend, chaque cas est différent, en fait. Tu peux tomber dedans à cause d'une dette. C'est un moyen facile, en fait, pour payer. Moi, je suis tombé dedans parce que j'avais envie d'argent, j'avais envie d'argent rapide. J'avais de l'entourage qui était peut-être avant moi aussi impliqué. En fait, les sommes d'argent aussi qu'on gagne en tant que guetteur, quand on est jeune, c'est intéressant.
C'est combien ?
Entre 60 et 80 euros.
Par jour ?
par jour.
Après, qu'est-ce qui s'est passé de 13 à 16 ans? Pendant 3 ans, vous avez été guetteur?
Non, pas du tout.
Racontez-nous.
Non, pas du tout. Peut-être entre 14 et 16 ans, j'ai travaillé, on va dire, pour quelqu'un, pour un réseau. Et ensuite, j'ai fait mon indépendance, j'ai commencé à bosser pour moi-même.
Donc vous êtes devenu le gérant de votre propre trafic, quoi.
Voilà.
Comment vous avez créé votre trafic?
En volant celui de l'autre.
Comment vous avez procédé?
Bah, si par exemple, il a un nombre de clients,
ouais,
qu'il a fidélisé. Si par exemple, moi je suis sur son réseau depuis un certain nombre d'années, on va dire, j'ai la facilité d'accéder au client et de le faire venir vers moi, de lui proposer une offre qui peut l'intéresser. Et on l'accroche facilement après.
Vous avez été arrêté à l'âge de 22 ans?
Ouais, je suis parti en prison à l'âge de 22 ans. Ouais.
Comment s'est passée votre arrestation?
C'était une perquisition à 6h du matin et sur une commission. Et puis voilà.
Comment vous l'avez vécu, la prison?
Moi, personnellement, je l'ai vécu comme une très bonne leçon. Et en fait, j'ai fait 1 an et c'était assez pour comprendre quelque chose.
Quand vous dites que c'est une leçon, c'est très important de le dire parce que depuis tout à l'heure, on a l'impression que c'est facile ce que vous avez vécu. Aujourd'hui, vous comprenez que ce que vous avez fait, c'est mal?
C'est pas la prison qui m'a fait comprendre. Bah, en fait, c'est humain. En fait, on sait que ce qu'on fait, c'est mal. Mais y a tellement d'autres bonnes contreparties. Tant qu'on ne se fait pas attraper, on continue. En tout cas, moi, personnellement, j'ai continué.
Vous avez eu l'impression de perdre votre jeunesse en prison?
J'ai perdu beaucoup de temps. Oui, parce qu'en fait, ça, c'est irrattrapable.
Vous dites que vous avez été égoïste avec votre famille. Pourquoi?
Bah, parce que la famille en souffre. En fait, je ne suis pas le seul détenu. Moi, quand je vais en prison, ma famille aussi, elle est en quelque sorte prisonnière.
En janvier 2021, vous avez été condamné à 4 ans de prison, un aménagement de peine qui vous fait sortir en octobre 2021. Un long processus pour obtenir cet aménagement de peine. Pourquoi avoir décidé de demander cet aménagement? Vous avez dit au juge, j'ai compris.
Dès le départ de le premier jour de mon incarcération, ma décision d'arrêter tout ça, elle était déjà prise en fait. Mais je savais qu'il fallait que je purge une certaine peine, un minimum, pour pouvoir sortir de là. Quand j'ai vu que mon projet il était solide à l'extérieur...
C'était quoi votre projet?
Je voulais devenir chauffeur poids lourd. Mais en fait, ça c'était un projet que j'avais déjà bien avant d'aller en prison. C'était le seul boulot en fait dans lequel je me voyais. Et en fait, quand je suis allé en prison et que j'ai rencontré l'association SPIL, dès le départ, j'ai prévenu que si je sortais pas avec ce métier-là, je préférais ne pas sortir.
Vous avez été accompagné par l'association SPIL que vous venez d'évoquer, sortir de prison, intégrer l'entreprise dont le président SPIL est notre collègue François Langlais. Groupe M6 est très concerné par le sujet de la prison puisqu'il a créé il y a plus de 12 ans une fondation qui favorise la réinsertion des personnes détenues. 6 condamnés sur 10 seraient incarcérés dans les 5 ans après leur libération. Ça témoigne de la difficulté de ne pas récidiver, Sofiane, de ne pas tomber dans les mêmes erreurs.
Oui.
Là, vous aviez eu la chance d'être accompagné par SPIL, par une association, par une conseillère qui vous a suivi. Et j'imagine qu'il ne vous a pas lâché.
Non, pas du
Mais
tout.
Pour d'autres, la prison laisse aussi des séquelles psychologiques parfois.
J'ai eu une bonne détention. C'est pas le cas de tout le monde, en fait.
Ta famille, elle est fière de toi désormais?
Complètement. Parce que, en fait, ma famille, ils me connaissent très bien en tant que personne très gentille et honnête. C'est pas qu'ils ne comprennent pas pourquoi j'ai fait ça. Mais en fait, ils m'ont surtout demandé de mettre mon énergie ailleurs parce qu'ils savaient que j'avais les capacités de faire assez d'argent autrement.
Vous retomberez pas?
Non.
C'est un nom très ferme et affirmatif, ça.
Ah ouais, là,
ça me fait vraiment plaisir.
Bah, parce qu'en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé des choix et on pèse souvent le pour et le contre. Et là, ce que j'ai à perdre, c'est beaucoup trop pour perdre mon temps là-bas.
Un jour, j'ai été à l'école de ma jeunesse, l'école Descartes, dans la cité des Francs-Moisins.
Okay.
Et j'ai fait une masterclass devant des petits jeunes de CM1, CM2, où je discutais de la vie et de mon travail de journaliste. Et il y en a un qui m'a regardé, qui m'a dit « Tu gagnes combien par mois ?» Donc je lui ai donné mon salaire. Et il avait 11 ans, 10 ans. Il m'a dit « Bah, certains dans le quartier, ils gagnent déjà beaucoup plus. Et moi, en étant chouf, je gagne 80 euros par mois déjà. » Le gamin avait 10, 11 ans. On leur dit quoi, ces gamins, Sofiane?
Eh ben, en fait, c'est là que ça commence le problème. En fait, on est aveuglé. C'est un mensonge, en fait, tout ça. C'est une vitrine. En fait, on est aveuglé par l'argent. On n'expose pas tous les problèmes. Mais personne qui, gamin, commence chouf, s'arrêtera à chouf. Parce qu'en fait, quand on est chouf, on voit que le chouf.
Guetteur.
On voit pas, en fait, les autres postes. Mais pour les voir, il faut rentrer dans le circuit.
Merci beaucoup, Sofiane. Ouais. Merci d'avoir témoigné sur RTL aujourd'hui. Ouais. Je vous souhaite beaucoup de bonheur.
Merci.
Et je félicite l'association SPIL et votre conseillère, Camélia, qui a dû faire preuve de beaucoup de détermination.
Ouais, énormément. Ouais.
Merci beaucoup, Sofiane. Merci à vous.
Au revoir.
Focus Dimanche sur RTL.
Une autre histoire liée aux prisons. Elle est aussi mon invitée dans Focus Dimanche, la journaliste Plana Radenovic. Bonjour Plana.
Bonjour.
Vous signez cette semaine Depuis l'enfer gris, un livre paru aux éditions Michalon. Il s'agit d'une compilation de lettres entre Redouane Faïd, avec qui vous avez échangé. Il est connu surtout pour ses deux évasions en 2013, celle en hélicoptère en 2018. Mais est-ce que vous pouvez nous représenter Redouane Faïd pour ceux qui ne le connaissent pas?
Oui. Alors Redouane Faïd, c'est un braqueur qui a commencé les vols très jeune, quand il était enfant, et qui petit à petit est monté. Il a braqué surtout des fourgons blindés, et en effet, comme vous le disiez, il est connu pour ses deux évasions. En 2013, de la prison de Sequedin, où il a pris quatre surveillants pénitentiaires en otage, et en 2018, en hélicoptère de la prison de Réau. Et depuis 2018, depuis qu'il a été rattrapé après sa cavale, il est placé à l'isolement, d'abord à Vendin-le-Vieil, puis aujourd'hui, il est à Fleury-Mérogis. Il attend son dernier procès qui devra arriver à l'automne.
Depuis presque 10 ans, Redouane Faïd est placé à l'isolement. Il est seul. Il ne doit croiser aucun autre détenu dans sa prison. Je le cite, nous sommes des êtres sans contact, attendant la fin de la vie, des conditions de vie inhumaines, draconiennes, selon lui. Comment vit-il sa détention ?
Ce qui est compliqué avec lui, c'est qu'il a un côté entre guillemets très fier, mais j'ai pu consulter un certificat médical. Le placement à l'isolement de longue durée crée chez lui des séquelles psychologiques irréversibles. Enfin, il faut voir quand même qu'il n'a pas pris la main ou touché une personne de sa famille depuis plus de 4 ans.
J'ai une question sincère et directe, Plana Radenovic. Est-ce que vous vous êtes attachée à Redouane Faïd ?
Oui, vraiment. En fait, au début, c'était vraiment un sujet. J'étais juste la journaliste et puis lui, la personne détenue. Mais forcément une relation de 3 ans, même juste épistolaire. Oui, je me suis attachée humainement à lui.
Moi, j'ai lu votre livre et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de distance. On est vraiment entre deux personnes qui échangent sincèrement, honnêtement. On découvre aussi l'envers du décor. Mais ceux qui vont vous lire ne peuvent pas oublier que Redouane Faïd a organisé un braquage où une policière est morte, oui. Aurélie Fouquet. Oui. Est-ce que vous avez réfléchi à ça et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui peuvent vous dire « mais il y a eu quand même un mort à l'issue de l'un des braquages organisés » par Redouane Faïd?
Bien sûr, non, mais déjà cette question, je l'évacue pas du tout et je comprends tout à fait. Moi, si j'étais dans la famille d'Aurélie Fouquet, jamais je voudrais entendre parler de Redouane Faïd. Après, je pense que l'impératif sociétal est plus grand que ça, c'est-à-dire que pour moi, c'est très important de montrer que toutes les personnes incarcérées sont aussi vraiment des personnes. Enfin, pour les personnes victimes de ces personnes incarcérées, évidemment que c'est insupportable et ça, c'est tout à fait compréhensible et c'est normal qu'elles méritaient pas de mourir.
Il exprime des regrets. Il en parle.
Oui, mais alors, il exprime des regrets en général, mais pour cette affaire d'Aurélie Fouquet, il clame son innocence. Donc, il est condamné par la justice pour avoir organisé le braquage qui a conduit au meurtre de cette jeune maman. Oui, mais lui, il continue de dire que c'est pas lui.
Il a été condamné à 28 ans de prison le 13 mars 2020, 10 ans de plus qu'en première instance. En 2023, il va passer devant la justice pour le procès de l'évasion de la prison de Réau de 2019. Il va finir sa vie en prison, Redouane Faïd. Il le sait.
Oui, alors nous, quand, dans nos échanges, on dit vieillir en prison parce que je pense qu'il a besoin de toujours garder un espoir de un jour sortir. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il est censé sortir à l'âge de 75 ans. Là, il a 50 ans aujourd'hui. Et en plus, comme vous dites, il n'a pas encore eu son dernier procès. Donc sûrement qu'il y a encore des années qui vont s'ajouter. Donc oui, il le sait. Et justement, ça pose toute la question de l'espoir et comment on vit sans espoir.
Je cite dans votre livre, la prison assomme ou réveille un volcan chez les personnes incarcérées. Est-ce que les conditions de vie de ces prisonniers sont parfois contre-productives, Plana?
Oui, mais exactement, parce qu'en fait la prison, elle repose sur deux jambes, la punition et la réinsertion. Et pour la réinsertion, donc la lutte contre la récidive, donc ce qui bénéficie à nous tous, il faut quand même traiter les gens comme des humains, parce que si on traite les gens comme des moins que rien, c'est pas sûr que quand ils sortent ils se sentent bien dans notre société.
Après ses premiers braquages, Redouane Faïd avait exprimé ses regrets, et il en avait même fait un livre, il y avait eu des documentaires sur lui, il avait dit qu'il regrettait cette période de sa vie qui l'avait emmené en prison. Derrière, il a recommencé. Il vous dit pourquoi dans ce livre, Plana Radenovic?
Oui, il me dit pourquoi, parce que moi, comme tout le monde, j'ai voulu y croire en 2010 quand il a dit qu'il allait vivre normalement et que c'était derrière lui. En fait, ce qu'il explique, c'est que c'est quelqu'un qui est accro à l'adrénaline et que en fait, il a une incapacité à vivre normalement.
Il y a un autre élément qui est très important sur le comportement de Redouane Faïd, c'est que certains psychologues expliquent qu'il a une capacité parfois de manipulation, qu'il est capable de cacher ses émotions. précautions. Vous en avez discuté avec lui ?
Oui, en fait, j'ai eu très peur, entre guillemets, de ça à ma première rencontre avec lui, parce que je me disais, bah voilà, s'il cherche à me manipuler, moi, qu'est-ce que je peux faire ? Et en fait, oui, on en a parlé, mais comme j'ai correspondu pendant plus de 3 ans avec lui, on est passé quand même au-delà de ça, et je pense avoir accédé à une forme de vérité avec lui.
Il exprime aussi des regrets pour tous les gens qui ont cru en lui. Je pense à des jeunes des quartiers populaires, je pense à des gens qui croyaient en la réinsertion. C'était le visage de la réinsertion. Il était souriant. Les gens ont cru en lui. Il en parle ?
Oui, il en parle, et c'est quelqu'un aussi pour qui c'est très important. C'est quelqu'un, comme vous dites, qui vient d'une cité. Il a en prison ce rôle un peu de grand frère où il essaye d'aider les jeunes détenus, etc. Et il voudrait que les jeunes s'en sortent. Il en voit plein qui sont là pour des trafics de drogue, etc. Lui, voilà, il dit, entre guillemets, sa vie, elle est pourrie là. Enfin, il va vieillir en prison. Enfin, ça ne vaut pas le coup en fait.
Merci beaucoup, Plana Radenovic, pour ce témoignage depuis l'Enfer Gris, un livre paru aux éditions Michalon. C'est sorti jeudi dernier. Merci beaucoup, Plana Radenovic. Merci à vous. Tiphaine Huot-Marchand était la star du patinage français. Dans un choc anodin, ses cervicales se sont fracturées. Le chirurgien lui a expliqué qu'elle ne remarcherait jamais. Ces derniers jours, elle a repris la course. Elle nous raconte les secrets de ce miracle sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
C'est une histoire magnifique, celle d'une femme qui espère à nouveau enfiler ses patins. La patineuse de vitesse Tiphaine Huot-Marchand s'est écroulée sur la glace. C'était en octobre dernier, lors d'une compétition aux Pays-Bas, une fracture des cervicales qui remet toute sa carrière en jeu. Pour celle qui a déjà une médaille d'or obtenue lors des championnats d'Europe en 2021, la meilleure patineuse de short track française est mon invitée dans Focus Dimanche. Bonjour Tiphaine.
Bonjour.
Tiphaine Huot-Marchand, vous gardez espoir d'un jour remonter sur la glace, vous qui êtes l'un des plus grands espoirs de la glace française ?
Oui, clairement, aujourd'hui c'est mon objectif numéro 1.
Vous espérez remonter très très vite sur les patins, mais au départ, votre chirurgien n'était pas aussi optimiste que vous sur la possibilité de retrouver la compétition, et même sur la possibilité de marcher, tout simplement.
Juste avant mon opération, mon chirurgien m'a dit que je ne marcherais probablement jamais. Donc, c'était même pas histoire de remonter sur des patins, c'était tout simplement remarcher.
Racontez-nous, Tiphaine Huot-Marchand, comment s'est passé ce choc ?
Alors, c'était une compétition de préparation pour les Coupes du Monde. Je me sentais plutôt bien et je fais un dépassement à l'extérieur et une de mes adversaires me met un coup involontairement qui m'entraîne dans sa chute et j'ai tapé violemment les protections. Mmh. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai plus rien senti. Je sentais juste mes yeux, donc c'était assez traumatisant et c'était clairement un cauchemar.
Vous expliquez, je n'ai pas eu mal, j'ai jamais ressenti une douleur ensuite aussi vive.
Oui, alors au moment du choc, j'ai absolument rien senti.
Oui.
Je savais juste que j'étais paralysée de la tête aux pieds. Par contre, une fois que les secours sont arrivés, là mon corps s'est réveillé peu à peu. Donc j'étais toujours paralysée, mais j'avais vraiment l'impression d'être dans des flammes, tout mon corps me brûlait, tout simplement des douleurs neurologiques, donc ça je l'ai compris après, ouais. Mais c'était vraiment terrible.
Tout de suite, vous avez compris que c'était grave ?
Ah oui, bon, à partir du moment où on ne sent plus du tout son corps, où on ne peut plus rien bouger, on sait que c'est grave tout de suite, on ne se pose pas de questions.
Vous avez subi une opération, et là Le docteur, le médecin vous dit, Tiphaine Huot-Marchand, ça va pas le faire. Vous n'allez pas retrouver vos sensations, vous n'allez pas pouvoir marcher. Vous ressentez quoi à ce moment-là ?
À ce moment-là, je me suis mise à hurler parce que j'étais encore en état de choc. J'étais encore paralysée, j'étais sur la table d'opération. J'ai pas vraiment le temps de cogiter parce que l'anesthésiste m'a endormie directement là-dessus. Donc, dès mon réveil, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de voir si mes pieds bougeaient. Mmh. Donc, j'avais quelques orteils qui bougeaient un petit peu, mais à ce moment-là, je me disais, mais c'est impensable, il va vraiment falloir que je fasse tout pour pouvoir remarcher.
Et c'est un petit miracle que vous avez vécu, un miracle qui porte un nom, votre combat, votre engagement, puisqu'on vous dit que vous n'allez pas remarcher, et pourtant, 10 jours après l'opération, seulement 10 jours après, vous avez commencé à reprendre la marche.
Oui, je m'étais préparée psychologiquement à ce que ça mette du temps. Après, j'ai eu beaucoup de chance d'être prise en charge rapidement. C'est aussi ce qui a fait que j'ai pu m'en sortir.
Quelques jours après votre choc, sur la glace, vous publiez une vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous êtes allongé dans votre lit d'hôpital et vous dites ça.
Je sais que ça va être encore plus dur. Je vais devoir réapprendre à marcher, mais je vais y arriver et je vais revenir plus forte. Et puis on se retrouvera sur la glace. Merci pour tout.
Merci à qui, Tiffany ?
J'ai reçu directement énormément de soutien, que ce soit de la part de ma fédération, de la ville de Belfort, de l'équipe hollandaise qui était vraiment présente pour moi. Puis je me suis dit que c'était important d'informer et de remercier surtout toutes ces personnes qui étaient là pour moi.
Vous êtes encore émue aujourd'hui quand vous entendez cette vidéo, Tiffany Huot-Marchand ?
Oui, clairement, parce que je vois tout le chemin que j'ai pu parcourir depuis. C'est le plus gros traumatisme et le plus gros combat de toute ma vie.
Aujourd'hui, vous avez récupéré l'usage de votre bras droit. Vous faites désormais de la course à pied. On peut dire vraiment que ça va beaucoup mieux. On peut même dire, Tiffany, que vous êtes une miraculée.
Ouais, ça va beaucoup mieux. J'ai recommencé la course à pied il n'y a pas longtemps, donc c'était une deuxième étape très importante pour moi, parce que je m'étais jurée de pouvoir remarcher, recourir et repatiner. Après, je sais qu'il reste encore beaucoup à faire.
Vos proches, ils vous soutiennent, même s'ils ne veulent plus que vous fassiez du short track. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
C'est plutôt mon père qui veut plus trop que je refasse de short track. Après, ça se comprend en termes de douleur qu'ils ont pu vivre à ce moment-là.
Oui.
Après, je leur ai dit également que j'aurais pu avoir un accident de voiture, j'aurais pu tomber dans des escaliers. Aujourd'hui, ils le comprennent un peu mieux. Et puis, ils savent aussi que le short track, c'est ma passion. La compétition, c'est ce qui m'anime le plus. Donc, ils commencent à le comprendre petit à petit. Et puis après, oui, ça a été un énorme soutien.
Vous avez quitté l'hôpital vendredi. C'est un soulagement de ne plus être là-bas, d'être revenu à la maison.
Oui, ça fait énormément de bien. Je vais continuer la rééducation, mais d'une autre manière. Donc, ça fait beaucoup de bien de plus être à l'hôpital parce que ça me rappelait quand même tout cet accident. Donc, je vais me projeter un peu plus vers mon retour vers la glace.
C'est votre plus belle médaille d'or, votre combat, votre rééducation. Quand on arrive à tromper un médecin qui vous dit non, c'est pas possible, vous ne remarcherez pas, c'est la plus belle médaille d'or qu'on puisse avoir.
Ouais, clairement. Après, je pense que pour le moment, c'est plutôt une médaille d'argent. J'aurai ma médaille d'or quand je retrouverai mes patins.
Et c'est quoi vos objectifs ? Retrouver vos patins ? On a bien compris que vous êtes déterminé, que rien ne vous fera changer d'avis. Mais c'est quoi les objectifs ? Quelles sont les compétitions que vous voulez disputer là et rapidement ?
Dans un premier temps, je vais terminer ma rééducation. Ensuite, au mois de mai-juin, j'espère pouvoir reprendre la saison en même temps que tout le monde et me préparer au mieux pour les premières Coupes du Monde de la saison ou alors les Championnats d'Europe au mois de janvier 2024.
Et les Jeux Olympiques, on y croit ?
Oui, bien sûr, les Jeux Olympiques en 2026 à Milan.
Merci beaucoup, Tiffany Huot-Marchand. C'était une belle histoire qu'on voulait mettre en lumière aujourd'hui parce que vous êtes l'un des plus grands espoirs de notre patinage français. Et pourtant, vous avez connu la douleur, le choc. Et aujourd'hui, vous êtes là. Vous êtes là et vous courez avant de retrouver la glace. Merci à vous, Tiffany.
Merci beaucoup.
Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a dévoilé son rapport annuel. Les chiffres sont alarmants. Le sexisme en France ne recule pas. Vous aussi, vous l'avez peut-être vécu. Dans un instant, vous entendrez les témoignages édifiants de deux femmes victimes de sexisme sur RTL. C'est dans Focus Dimanche.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
Toujours bien présent en France. Malheureusement, le sexisme ne recule pas malgré les avancées en matière de droits des femmes et de la libération de la parole. Toutes les deux en sont des victimes. Elles témoignent dans Focus Dimanche. Bonjour Gabriela Belaïd. Vous êtes informaticienne dans une grande entreprise française. Bonjour.
Bonjour Mohamed.
Bonjour aussi à Elisabeth Richard, directrice des relations avec la société civile Engie et membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonjour.
Bonjour.
Justement, celui-ci, ce Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a dévoilé cette semaine son rapport annuel. Selon lui, la société française demeure très sexiste. Gabriela, vous partagez cet avis?
Oui, moi je partage évidemment l'avis que la société française reste sexiste, et elle l'est de plus en plus dans ses manifestations. Sur mon domaine, hein, moi je vais parler du milieu de l'informatique et même de la formation au métier scientifique. Le sexisme, on le connaît depuis tout jeune. Les orientations vers les filières scientifiques, on va prioriser les hommes. Les femmes vont pas pouvoir en bénéficier. En tout cas, si elles le souhaitent, elles ne vont pas y aller. Et de toute façon, on va les décourager dans la construction. Et quand on y arrive, quand on rentre dans ces filières-là, on rencontre du sexisme dès le départ. Moi, je suis rentrée dans une école où j'ai été confrontée dès le premier jour au sexisme.
Dans votre société, Gabriella, qui est une grande société française, vous êtes 3 femmes informaticiennes pour 200 hommes.
Je ne suis plus dans cette entreprise-là, mais d'accord. Effectivement, on est 3 femmes et 200 hommes qui tournaient autour de ces systèmes d'information.
Gabriella Belaïd, on vous a dit, l'informatique, c'est pas compatible avec la gente féminine. On a même lancé des paris vous concernant, racontez-nous.
Alors, nous dire que c'est pas compatible, c'est plutôt de nous dire tout ce qui est technique, c'est pas clair pour vous, vous pouvez pas comprendre. Donc c'est toujours nous orienter côté, on va dire, fonctionnel de l'informatique. Mais les paris que j'avais eu dans ce service informatique, il y avait eu 200 hommes, et là, un avait décidé de lancer un pari qui était pour lui de dire « je parie que je serai le premier à la mettre dans mon lit ». Évidemment derrière moi, et donc moi je l'ai découvert quelque temps après parce qu'il y a des hommes bienveillants évidemment qui est venu me prévenir, parce qu'on avait des déplacements, il y avait le fait de se retrouver dans les mêmes hôtels, etc. Il m'avait dit méfie-toi, il a lancé ce pari-là. Mais c'était ces relations-là qui étaient biaisées finalement, parce qu'on était dans la méfiance constante de se dire mais qui est dans le pari. Et donc c'était des relations difficiles et compliquées au quotidien.
Elisabeth Richard, vous aussi, vous avez été victime de comportements sexistes au quotidien. On parle parfois d'insultes en public. Vous avez vécu quoi ?
C'était il y a 17 ans, dans un grand groupe. Et c'était un dirigeant du groupe. Moi, j'étais toute jeune, à la direction de la communication. Chaque fois que j'allais le voir, il était très gentil, hein, j'ai pas été agressée. Mais chaque fois que j'allais le voir, la porte du bureau était ouverte et il disait haut et fort « Déshabille-toi, j'arrive ». Et ça faisait rire tout le monde. Il y avait beaucoup d'hommes à l'époque, il y avait que 8% de femmes dirigeantes, donc vraiment la place des femmes était difficile. Vous étiez jeune, vous étiez à la direction de la communication, sincèrement, ça a été des mots extrêmement difficiles. Il le faisait sur moi, il le faisait certainement sur d'autres.
Vous réagissez comment à ce moment-là? Quand vous entendez ça, mais quand vous voyez la réaction de vos collègues en train de rire?
Il y a 17 ans, quand on vous parle de ça, on pense que c'est des blagues potaches, ok? Et puis il y a 15 ans... 2 ans plus tard, on commence à travailler sur la place des femmes et il se trouve que la mission m'est arrivée entre les mains. Et là, j'ai vu que toutes ces phrases, toutes ces attaques, toutes ces insultes avaient une forme forte et très importante dans la discrimination et dans le fait qu'ils mettaient d'eux-mêmes le plafond de verre sur nous et notre avancée de carrière. Comment voulez-vous faire quand quelqu'un vous dit « déshabille-toi, j'arrive », vous voulez évoluer dans votre carrière? C'est impossible. Donc moi, au bout d'une année de travail sur le sujet de la place des femmes, je suis allée le voir. Il dit, écoute, c'est plus possible. Tu peux plus faire ça. Mais il me dit, ah, mais c'est une blague. Je dis, mais c'est pas une blague. Je dis, mais comment veux-tu, moi, ensuite, quand je passe un assessment, que je vais voir des dirigeants qui m'interrogent et ils ont en tête ça. Comment tu veux que je fasse, moi, pour évoluer? Je lui ai dit, l'argument qui a fonctionné chez lui et qui fonctionne chez beaucoup, d'ailleurs, dirigeants, c'est... Imaginez si on disait ça à vos filles.
Ouais. Gabriella Belaïd, vous, on vous a traité de connasse. On a même retourné un jour votre bureau, c'est ça ?
Oui, en fait, c'était un collègue qui dépendait d'une autre entité. Et donc, moi, j'étais directrice de projet, donc je pilotais toutes ces équipes-là qui intervenaient sur mon projet. Et donc, on était sur des choix d'orientation, sur des développements informatiques, et je ne partageais pas son point de vue. Et donc, je lui disais... C'est la décision, puisque c'est nous qui pilotons. Je fais, c'est notre décision, c'est notre besoin. Et à un moment donné, il s'est levé, il a donné un coup de poing sur la table, il a cassé la table, il m'a dit, mais en hurlant, mais c'est qu'une connasse celle-là, et il est parti. Évidemment, je pense que si on n'était pas dans un contexte de réunion, je pense qu'il m'aurait frappé. Évidemment, je précise que c'était avant MeToo. Peut-être que les choses auraient été différentes si on avait été après le contexte MeToo.
Gabriella, Elisabeth, écoutez Anne-Cécile Maillefer, la présidente de la Fondation des Femmes, qui fait un travail formidable pour changer les mentalités dans notre société. Elle s'exprimait dans C'est ce soir sur la situation du sexisme en France.
Moi, j'ai aussi vu des hommes qui s'interrogeaient sur grâce à MeToo, hein, en se disant, mais en fait, ah oui, mais ma soeur, ma voisine, ma cousine, évidemment, quand ça concerne ses proches, on se rend un peu plus compte. Et qu'est-ce que je peux faire, moi? Donc, il y a quand même eu des hommes qui ont cherché là-dessus. Et puis, je pense qu'il y a quand même une résistance aussi. C'est-à-dire, si le sexisme existe, c'est bien parce que il bénéficie quand même à une certaine partie de la population qui n'a pas tellement intérêt à voir les choses bouger.
Elisabeth Richard, elle dit la même chose que vous. Elle ajoute, ça bénéficie à certains. Certains profitent de ce sexisme ambiant dans notre société.
Je trouve que le sexisme explicite n'est plus vraiment là. Mais c'est le sexisme implicite. C'est le sexisme ordinaire. C'est toute cette petite phrase, toutes ces choses qui se passent dans la société. Nous, il nous est arrivé quelque chose. Moi, j'avais l'intuition, je préside le réseau des femmes chez Engie, et j'avais l'intuition que, statistiquement, je savais qu'il y avait des femmes qui étaient battues. Et statistiquement, je savais qu'il y avait des hommes qui battaient. Et donc, j'ai fait un zoom pendant le confinement, au bout d'un mois et demi, avec une consultante externe, pour avoir un regard externe, et pour prendre un peu la température de femmes que je connaissais. Et j'avais beaucoup de caméras fermées, éteintes. Donc, je leur dis, ben voilà, on va parler, on va prendre un peu comment ça va, comment ça se passe. Et là, deux sur les 20 qu'on avait en face de moi, sur l'écran, une avait un visage tuméfié, et l'autre, la porte et les cris d'un homme a claqué. Les caméras se sont éteintes. Et évidemment, vous imaginez, moi j'étais retournée, j'arrête tout, je prends mon téléphone, j'appelle la direction générale, j'appelle le président du groupe, j'appelle Jean-Pierre Clamadieu, je lui dis écoutez, voilà. On parlait des violences faites aux femmes, c'était plutôt vie perso, vie pro, ouais. L'entreprise fait déjà beaucoup de choses. Mais là, il n'y a plus de barrière. Vie pro, vie perso, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, vous avez carte blanche, on y va, on fait, on combat. Et c'est comme ça qu'on a décidé de mettre le 39-19 sur toutes les factures du groupe.
Il y a des chiffres qui font, et encore, parfois sourire. 23% des hommes considèrent que le barbecue est une affaire d'hommes dans ce rapport. Ça peut nous faire sourire. On perd totalement le sourire quand on voit que 12% des femmes ont déjà eu un rapport sexuel non protégé devant l'insistance de leur partenaire. Ça monte à 18% chez les 25-34 ans. 7% des femmes ont eu un rapport sexuel non consenti sous l'emprise d'alcool de leur partenaire. Gabriella Belaïde, là, on parlait du sexisme au quotidien, mais vous l'expliquez vous aussi. Parfois, vous rencontrez des hommes dans votre carrière qui ne veulent pas faire avancer les femmes, qui ne veulent pas donner à des femmes des postes stratégiques.
Oui, évidemment, c'est constant hein, sur le chemin. En fait, le comportement sexiste permet aussi aux hommes de se protéger. C'est ce que disait Elisabeth tout à l'heure. Se protéger sur des postes. Moi, j'avais un exemple concret sur un recrutement. Donc là, c'est une chasseuse de tête, une femme qui m'appelle. Et qui, elle, me dit, voilà, j'ai un très grande association nationale hein, qui fait de l'alimentation d'urgence et qui veut recruter son directeur des services informatiques. Donc, elle m'appelle, elle m'a dit, moi, je ne peux pas passer devant votre profil, je vais quand même le renvoyer, mais elle me dit, en toute honnêteté, ils veulent un homme de 50 ans. Mmh. Et je lui ai dit, je fais, mais dans ces cas-là, enfin, j'ai aucune chance, hein, je suis une femme, j'avais moins de 40 ans. Elle me fait, oui, mais je suis obligée quand même de l'envoyer, elle m'a dit, je veux leur faire changer d'avis. Évidemment, elle n'aura pas fait changer d'avis puisque je n'ai pas été recrutée. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de réponse de leur part. Mais le sexisme, parfois, va se transformer en discrimination. Ouais. Vous pouvez avoir des entretiens, et ça, j'en ai eu, je crois que j'avais 38 ans quand j'ai eu cet entretien-là. Donc, j'ai fait toutes les phases de recrutement. Et à un moment donné, je travaillais avec une femme, je rencontre mes futurs collègues, qui étaient deux hommes, dont un qui allait avoir un bébé. Il restait plus que la signature finale du directeur des achats. Et là, il dit, ah ben non, elle va nous faire un bébé dans les 3 ans, donc c'est pas la peine.
Oui, j'allais vous poser la question, comment on réagit quand on a des projets de bébé, par exemple? Alors là, on vous a donné un projet de bébé alors que vous ne l'aviez pas, mais comment on fait quand on a l'ambition d'avoir un enfant, quand on est une femme et qu'on veut aussi avoir une carrière normale?
C'est difficile parce que moi je vais être le mauvais exemple parce que je n'ai pas eu d'enfant. Et je pense qu'il y a deux raisons médicales. Moi je souffre d'endométriose, mais la deuxième c'est que j'ai jamais pu me projeter professionnellement parce que j'avais toujours cette problématique de l'enfant. En fait, il y a 3 temps dans une carrière de femme. Quand on est jeune et qu'on a de l'ambition, on nous dit c'est trop tôt pour vous. Ensuite, quand on est dans la période où on a des enfants ou qu'on veut avoir des enfants, qu'on les élève, on leur dit c'est pas le moment d'évoluer dans la carrière. Et quand on arrive après avoir élevé des enfants et qu'on veut avoir de l'ambition, et là on nous dit c'est trop tard pour vous. Et en fait, il n'y a jamais de temps pour la femme parce qu'on est confronté à ces problématiques-là qui en fait résultent du sexisme.
En fait, Elisabeth, Gabriella a raison sur un point, c'est que les femmes, naturellement, s'auto-limite.
Oui, c'est pour ça qu'on a, enfin, globalement, le pays, depuis plusieurs années, a quand même mis en place un certain nombre de lois qui font que, dans les entreprises, et surtout dans les grands groupes, ben, on applique la loi. Franchement, on est un des pays les plus avancés sur le sujet. Je ne dis pas qu'on a gagné la guerre, mais on a gagné quelques gros combats, puisque les entreprises doivent répondre à cela.
Mais, et vous dites même que, dans 5 ans, on aura peut-être atteint l'égalité salariale ?
Moi, je pense, oui.
C'est surprenant.
Mais oui, mais la loi est là, l'index est là. Une augmentation de salaire, elle peut être décrétée au niveau du plus haut. L'idée, c'est quand vous avez une mauvaise note au niveau de l'index, là, la voix du haut dit « Ah non, mais attendez, moi, je ne veux plus voir ça. » Vous ne progressez que si vous mesurez. On ne mesurait pas. Donc, c'était au doigt mouillé à combien on a d'écart salarial entre les femmes et les hommes. Et on avait beau crier au loup dans la forêt, personne ne nous entendait.
Encore des chiffres qui font froid dans le dos. 47% des hommes, un homme sur deux estime qu'il est normal que les femmes prennent plus soin de leur physique que les hommes. Un homme sur trois considère que la mère doit assister aux réunions parascolaires. Ce sont des chiffres qui sont assez incroyables. Et je le rappelle, ce chiffre, 12% des hommes considèrent qu'une gifle sur leur femme n'est pas une violence.
On a fait un grand pas mercredi, 25 janvier 2023, puisque il y a 6 ans, Laurence Rossignol avait lancé un collectif qui s'appelait Ensemble contre le sexisme, et sur sa campagne Sexisme, pas notre genre. Et on avait un tas d'associations, nous en vions toutes parties, et on poussait les murs. Et puis quand elle a quitté son poste, et on a changé de gouvernement, avec une grande générosité, elle a dit « Bon, je ne veux pas que ça s'arrête ». Donc je veux que vous vous mettiez en collectif, en ordre de marche, et vous continuez sans moi. On a continué, Elisabeth Moreno a repris le flambeau, Isabelle Rome continue à nos côtés, et le président de la République a enfin autorisé et décrété que le 25 janvier, désormais, ça serait la journée nationale contre le sexisme, et ça c'est grâce au collectif Ensemble contre le sexisme. Sincèrement, Anne-Cécile Melfer de la Fondation des Femmes en fait partie, Gabriela Belaïde également, voilà, on est en coalition, donc maintenant on va marteler. On martèle un certain nombre de choses le 8 mars et vous nous invitez et on parle du sujet des droits des femmes le 8 mars. On parle malheureusement des violences faites aux femmes le 25 novembre. Eh bien, on parlera du sexisme le 25 janvier. Et l'idée, c'est de ne pas lâcher, que ce soit tous les jours.
Et on devrait en parler 365 jours par an. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup à Gabriela Belaïde. Vous êtes les bienvenus dans Focus Dimanche. Vous revenez quand vous voulez. Mais en tout cas, on espère que dans le prochain rapport du Haut Conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes, ces chiffres vont fortement, fortement baisser. Merci à vous deux. Je vous souhaite un excellent dimanche sur RTL.
Merci.
Il est sorti en salle cette semaine, Divertimento, un film qui retrace la véritable histoire de Zaya Ziwani et de sa sœur jumelle Fetouma, être née en Seine-Saint-Denis et devenir violoncelliste professionnelle et chef d'orchestre. C'est possible, elles sont toutes les deux mes invitées dans Focus Dimanche. C'est dans un instant sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
13h, 14h,
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
C'est un film qui donne le sourire, Divertimento, un film sorti mercredi en salle et qui retrace la véritable histoire de Zaya Ziwani, née à Pantin, d'une famille algérienne qui lui a appris à ne jamais renoncer son rêve, à elle devenir chef d'orchestre. Son rôle est joué par la magnifique Oulaya Amamra à l'écran. Un parcours semé d'embûches entre les élèves musiciens qui n'ont jamais franchi le périph et une maestro impitoyable. Mais sa détermination et sa force, Zaya Ziwani et sa sœur jumelle Fetouma, violoncelliste professionnelle, on en fait un combat. Elles sont mes invitées dans Focus Dimanche. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai adoré le film. Allez voir Divertimento, c'est une leçon de bonheur. Le film Zaya parvient vraiment à nous faire ressentir comment la musique transforme une vie. Zaya, un mot sur votre parcours avant de parler de Divertimento. C'est votre vie, Divertimento, c'est votre histoire.
Et bah oui, en effet, c'est une partie de notre histoire, bah surtout de notre parcours et de notre enfance, justement à Pantin, où on a aussi découvert la musique dans le cadre familial. Et puis c'est aussi justement cette aventure humaine, avec aussi les difficultés qu'on a rencontrées, qu'on est sorti de notre quartier de la Seine-Saint-Denis, et qu'on a découvert aussi le regard des autres sur nous, sur moi en tant que jeune femme et qui a envie de devenir chef d'orchestre. Et puis après, bah justement, de cette envie de diriger tout simplement. Et c'est vrai qu'à l'époque, bah, et encore aujourd'hui, on ne confie pas la direction des orchestres aux jeunes chefs d'orchestre, et encore moins aux femmes. Et donc, bah, je me suis dit, il faut me créer moi-même mes propres opportunités, et d'où est né Divertimento.
Divertimento, c'est une compagnie, c'est un orchestre.
Un orchestre,
un
exactement.
Un orchestre qui vient du 93, qui est venu à Paris expliquer aux gens ce qu'était la musique aussi dans le 93, avec c'est une ça. Ferveur, avec du cœur. Mais avant ça, Fethouma, parlez-nous de votre sœur et parlez-nous aussi de vous. Au départ, la musique, votre père en est fan et il adore la musique classique et c'est lui qui vous donne la fibre de la musique classique.
Oui, papa et notre maman aussi nous ont fait découvrir la musique depuis que on était toutes petites, même dans le ventre de notre maman. Et on a eu toutes les deux envie d'en faire, de partager ça ensemble, de partager ça aussi au sein de notre famille. On transmet ça aussi maintenant, nous aussi, à nos propres enfants. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très important.
Et puis, le transmettre surtout à tous les jeunes qu'on rencontre. Alors, évidemment, beaucoup en Seine-Saint-Denis, parce que tout à l'heure, en effet, on en parle. Divertimento, c'est un orchestre qui est né un peu à Paris, un peu en Seine-Saint-Denis, qui est né de la rencontre justement entre des jeunes que moi j'avais en cours de musique, en cours d'orchestre dans un conservatoire à Stains en Seine-Saint-Denis, dans un conservatoire à Paris. Et en fait, je me rendais compte que c'était des jeunes qui étaient tous passionnés de musique, mais qui avaient leur propre vie à Paris et qui sortaient pas de leur arrondissement. Et je me disais, mais si l'orchestre était aussi un lieu de rencontre, et justement, on en a fait aussi un lieu de rencontre entre des personnes très différentes. Et aujourd'hui, c'est un projet qui est très singulier et qui est en effet maintenant au premier plan du paysage musical.
On vous propose, à vous, les auditrices et les auditeurs de RTL, un court extrait du moment où Oulaya Amamra, qui joue votre rôle Zaya Ziwani, évoque le souhait de devenir chef d'orchestre.
Bonjour, mademoiselle.
Bonjour.
Quel est votre instrument ?
L'alto, maître. Mais je veux être chef.
Être chef, c'est pas un métier de femme. Vous savez, j'en ai connu des femmes qui voulaient diriger dans mes classes. Elles sont jamais restées plus de 2 semaines. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas assez de persévérance.
Vous l'avez entendu, ça ? Zaya Ziwani, vous l'avez vécu, les rires des gens,
oui.
Juste derrière vous. Vous avez vécu ces deux situations?
J'ai vécu ces deux situations. Alors, en effet, alors, il y a le fait qu'on dise que c'est pas possible pour une femme de devenir chef d'orchestre. Et en effet, pendant très longtemps, l'histoire de cet univers symphonique était très, très masculine, puisqu'il n'y avait que des hommes dans les orchestres. Ouais. Donc, forcément, la personne qui incarne l'autorité, qui est le chef d'orchestre, on donnait très peu de place déjà à des jeunes et encore moins à des femmes. Et donc, en effet, à l'époque de Tchilibida, qui a été une des grandes figures de la direction d'orchestre au XXe siècle, il n'avait jamais vu de femme chef d'orchestre. Donc, il m'a dit ça. Aussi pour m'alerter de la difficulté du chemin que j'allais entreprendre.
Entre 3 et 4% seulement ça, voilà. De femmes chefs d'orchestre. Fethouma Ziwani, vous êtes devenue violoncelliste professionnelle. Vous aussi, on vous a dit, mais t'es une femme.
Oui, alors en plus, c'est vrai que nous, on cumule un peu.
Vous êtes d'origine maghrébine.
On était jeunes.
Voilà, jeunes, voilà. Issus du 9-3, du 93.
De la Seine-Saint-Denis. Et du coup, c'était pas forcément évident de se faire prendre au sérieux. Justement, c'est pour ça qu'on a travaillé encore plus pour montrer que on était ultra motivés, qu'on était aussi compétente et qu'on avait le droit, comme tous les autres musiciens et musiciennes, de réussir. Et aujourd'hui, c'est vrai que il y a encore certaines institutions, par exemple le Conservatoire supérieur de musique à Paris, qui on a maintenant une directrice à la tête de cet établissement. Donc c'est la première fois depuis sa création en 1795. C'est aussi la première fois qu'il y a eu récemment une professeure de violoncelle qui a été nommée aussi titulaire de son poste là-bas. Il y a eu des assistantes par le passé, mais là c'est la première fois. Donc du coup, on voit quand même que les choses, heureusement, évoluent, mais ça prend du temps.
Ça prend du temps parce que c'était il y a 25 ans la naissance de Divertimento.
Exactement. Oui.
Pour créer tout ça, Zaya Fethouma, j'aimerais vous entendre sur un homme. C'est un hommage aussi, ce film, à vos parents.
Oui.
Mais plus particulièrement à votre père.
Oui.
Moi, il y a une scène et il y a des propos que vous avez tenus qui m'ont beaucoup touché. C'est le jour des grèves des années 90. Votre père vous dit, vous avez envie de dire non, on n'a pas envie d'aller à l'école, il n'y a pas de transport en commun, etc. Et lui, il vous dit non, je vous emmène à l'école.
Oui. Ouais, c'est vrai, parce qu'en effet, ce qu'on a appris de notre éducation, c'est que, en effet, l'instruction, c'est très important et c'est sacré. Et parfois, souvent, il y a beaucoup de vos confrères qui nous ont parfois interviewés en disant, mais vous êtes partis de rien, vous avez réussi. Non, on n'est pas partis de rien, parce qu'on a eu ce socle familial, cette instruction, cet enseignement qui est très précieux. Et en effet, pendant les grèves de 95, où on a vécu plusieurs semaines très difficiles, où il n'y avait pas de transport, en effet, notre papa, il nous emmenait tous les matins. Alors, en effet, on se levait en effet à 3h du matin pour prendre la voiture avant qu'il y ait les gros embouteillages. Et du coup, on finissait de dormir dans la voiture devant le lycée Racine. Et on n'a jamais raté un jour d'école. Et souvent après, soit ils revenaient nous chercher, soit on a aussi beaucoup fait le chemin inverse à pied. Et c'est ça que nous, on essaye de transmettre aujourd'hui aux jeunes avec lesquels on est, aux familles, au public que l'on rencontre, qui viennent souvent pour la première fois au concert, en leur disant, mais autorisez-vous d'aller au concert, autorisez-vous d'aller au cinéma, de lire, parce que ça vous ouvre des perspectives immenses et que c'est par le travail et par l'instruction et la curiosité quand justement on arrive à réaliser ses rêves. Et ça, c'est vrai que c'est un héritage très très fort de nos parents et de notre père en particulier.
Zaya, ce film, c'est aussi la transmission, la leçon. La transmission de vos parents, à Fethouma et à vous, Zaya, mais la transmission aussi de vous, oui, vers ses élèves, vers ses enfants, vers votre orchestre. C'est votre bébé, en fait, cet orchestre.
Divertimento. Oui, complètement. C'est une aventure évidemment artistique, mais aussi humaine. Et c'est ça qui est très beau et qui est montré dans ce film. Alors, évidemment, la réalisatrice Marie-Cassie Mention-Char, qui a porté notre histoire à l'écran, qui a fait un très beau travail avec l'ensemble des comédiens, elle a décidé de se concentrer sur notre parcours et la création de cet orchestre, qui aujourd'hui fête ses 25 ans, donc en 2023. Donc, j'ai envie de dire, le plus difficile, ça va pas être d'avoir été... peut-être d'avoir eu l'idée de le créer, mais de l'avoir porté jusque-là. Et puis surtout, tout à l'heure, on discutait justement de comment on pouvait aussi rendre accessible la musique partout. Je pense qu'aussi que notre parcours nous a amené à avoir aussi une singularité. Et comme justement on a des parcours différents, on a aussi des regards et des approches différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'une seule façon de faire de la musique en France. Alors évidemment, nous aussi, on adore défendre les grandes œuvres dans les grandes salles de concert, mais aussi d'être tous les jours dans des territoires très différents, en milieu rural, en milieu urbain, en milieu carcéral. En fait, les problématiques d'accès à la culture, elles sont similaires, simplement ouais, ça se transforme différemment pour des histoires de peut-être plus de mobilité et de voilà et d'accessibilité, mais en effet ça existe aussi. Et en fait voilà, donc nous c'est important de transmettre, on a eu cette chance nous de le découvrir ouais, dans le cadre de la famille. Pour ceux pour lesquels c'est pas le cas ou que l'école ne permet pas de le faire autant, et je trouve qu'aujourd'hui nous le milieu culturel, les artistes, on a une responsabilité et c'est ce qui fait partie aussi intégrante de l'ADN de l'Orchestre Divertimento qui aujourd'hui est très engagé, mais c'est aussi avant tout, et je tiens à le préciser, un orchestre qui est aussi un très bon orchestre, très talentueux, et qui a aussi, apporte aussi un regard artistique différent des autres. Et quand dans le film, à un moment donné, il y a une petite réplique qui dit « Oui, je veux que cet orchestre ne ressemble à aucun autre », oui, parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve que mon rôle de chef d'orchestre, c'est transmettre le patrimoine musical, mais aussi avec les regards des sujets qui nous concernent d'aujourd'hui, donc sur... qu'est-ce que c'est être français, comment notre culture elle s'est construite, le lien avec les cultures urbaines, avec le côté très urbain, avec les grands événements sportifs qu'on va rencontrer. Donc là, on est en train de préparer des gros spectacles pour les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby, et de montrer tout simplement que c'est pas un univers poussiéreux, mais au contraire, qui peut être très innovant.
Et on peut partir de Pantin et finir à l'Élysée.
Exactement.
Et surtout jouer devant le président de la République, Emmanuel Macron.
Exactement, et c'était aussi justement une belle mise en lumière de ce travail. Et puis on était très heureux d'avoir justement l'opportunité de présenter ce travail dans cette maison de la République qui nous appartient tous, à l'Élysée. Et puis aussi d'emmener les jeunes de notre académie de la Seine-Saint-Denis, et particulièrement de Stein.
Nos banlieues ont du talent, nos zones rurales ont du talent aussi, notre France a du talent. Et c'est très bien raconté, Fethouma Ziwani, Zaya Ziwani dans Divertimento. C'est une très belle leçon de vie. Une très belle leçon aussi de transmission entre des parents et des enfants, et surtout entre des sœurs.
Oui,
on vous voit Fethouma à l'écran, donc c'est vraiment agréable de sentir ce lien avec la famille Ziwani, et je rends un très bel hommage à vos parents. Voilà, parce qu'ils ont réussi leur mission.
Merci
parce que réussir
beaucoup.
Une vie professionnelle, c'est important, mais le plus important, c'est de pouvoir réussir sa vie personnellement, et là, ils ont bien réussi.
Oui, merci beaucoup.
Bravo à vous deux. Bon dimanche à vous deux sur RTL.
Merci.
À bientôt, Zaya.
À bientôt.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur RTL dans Focus Dimanche et je vous en remercie. Un grand merci aussi pour tous les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux après chaque émission. Vous le savez, Focus Dimanche, c'est votre émission. L'émission des entretiens avec ceux qui font l'actualité chaque dimanche à 13h sur RTL. Et tous les jours, vous retrouvez Marion Calais dans le podcast Focus qui décrypte une information. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Fabrice Eboué. Il est l'invité de Bruno Guillon dans le Bon Dimanche Show. RTL,